Intermondial.
RCV avec Pascal CV.
Que tous les coquins soient démasqués, jugés.
Boulevard.
3, 2, 1. Bon lundi, 10h02, quelques secondes de retard à l'émission parce que ben, Yannick et moi, on est allés faire une niaiserie. Vous allez voir, il a fallu qu'on court sur tous les étages de la bâtisse. Ouais, Yannick Marceau et moi, on va publier ça, je pense, sur les réseaux sociaux dans pas très long. Ouais, réseaux sociaux de Boulevard 102.1, entre autres. Hein, parce que vous êtes sur les ondes de Boulevard 102.1. Bienvenue dans l'heure CV. Je m'appelle Pascal CV. Puis je m'installe avec vous pour une heure. Suite à quoi, ben, c'est ça, l'heure du lunch avec Yannick Marceau puis Tom Gauthier. Je suis particulièrement de bonne humeur aujourd'hui. Comment ça va de votre côté? 418-971-1021. Je sais pas si c'est le soleil. Je ne sais pas si c'est le fait que ben, j'adore ma job. Donc, pour moi, rentrer au travail, c'est pas vraiment un effort. Je sais pas si c'est parce qu'il va faire jusqu'à 16 degrés aujourd'hui puis que c'est une journée historique et spéciale. Il y a tant de raisons pour être heureux, chose certaine. Ça prend un peu de temps avant de monter jusqu'à 16 degrés. On a 6 en ce moment à Québec. Donc, la grosse laine, là, l'alpaga au complet que vous avez sur le dos, gardez-le pour au moins quelques heures encore. On est sur Twitch, au twitch.tv/BLVD/FM. Des caméras en studio. Vous pouvez venir zioter, faire vos fouines, vos pis, tout ce que vous voulez. Voir nos réactions faciales aussi. Puis nos invités directement en studio. Ils ne seront pas en studio avec moi, mais ils seront au rendez-vous assurément. Frédéric Bérard, puisqu'on est lundi, sera avec nous. On va jaser de plein de petits sujets, entre autres du côté des États-Unis, Donald Trump, qui va laisser aux États le droit de... Ben, en fait, s'il est au pouvoir, là, il souhaite laisser aux États le droit de légiférer pour le droit à l'avortement particulier. Est-ce qu'on retourne vraiment là-dedans? On l'était déjà depuis un petit bout, mais avec Donald Trump, ça risque de s'accélérer, en fait, ce genre de débat important en société. Mais pourquoi est-ce un débat? Ça, c'est mon opinion personnelle. Ainsi que Mélanie Joly, qui est passée à Tout le monde en parle hier et qui a pris une position importante en tant que ministre des Affaires étrangères. Elle s'est opposée, en fait, du moins, elle a affirmé publiquement que Netanyahou et son régime en étaient un mauvais. Donc, ça place les cartes quant au conflit que l'on voit du côté d'Israël et de la Palestine. C'est gros, ça semble peut-être qu'un détail à vos yeux, mais non, c'est très, très gros se positionner comme ça en tant que pays, en tant que puissance. Veux, veux pas, le Canada en est une à l'international. Et là, ben, publiquement, elle s'est positionnée. Puis si vous pensez qu'on n'écoute pas l'émission Tout le monde en parle, ben, on écoute la ministre des Affaires étrangères, ça c'est sûr, à l'étranger, justement, dans ce conflit important. On va aussi jaser, bien sûr, de l'éclipse. Est-ce que tout ce qui est assurance, tout ce qui est risque... Je l'ai mis entre parenthèses, qui est risque pour les élèves avec cette journée d'éclipse. Il y a des gens qui pourraient en profiter. Si jamais il arrivait quelque chose là, sur le terrain de l'école, poursuite pourrait-il y avoir? C'est ce qu'on va aller jaser avec Frédéric Bérard un peu plus tard à l'émission. Et aussi Carl Beaulieu qu'on va recevoir. Carl Beaulieu, le connaissez-vous? Non, ça se peut que vous ne le connaissiez pas, à moins que vous l'ayez eu comme enseignant au secondaire ou encore que ce soit l'enseignant de vos jeunes. Et si c'est l'enseignant de vos jeunes, vous êtes particulièrement choyé. Je dis ça parce qu'il y en a ben 90 du côté de Saint-Georges-de-Beauce. Lui a décidé que c'était un événement important pour la science, un événement important pour l'éducation des jeunes et un événement historique aussi à souligner avec ceux qui avaient envie. Donc, contrairement à tout ce qu'on a entendu parler dans les dernières semaines, soit des écoles qui ferment ou encore qui ne prennent pas le relais dans tout ça, Carl Beaulieu a décidé que lui, il faisait puis il allait avec 90 élèves de l'autre côté des ponts. Est-ce qu'il va y avoir du trafic? Est-ce que vous êtes aussi en direction d'un endroit où vous allez pouvoir admirer ce phénomène-là? 418-971-1021. Confiez-moi, qu'est-ce que vous allez faire en cette journée d'éclipse? Est-ce que vous en profitez ou vous n'en avez rien à faire? Puis c'est vraiment correct aussi. Hein? Ça se peut que vous vous dites, ouf, les couvertures spéciales aujourd'hui, moi, ça ne m'intéresse pas. Et il n'y a rien contre ça. Il n'y a absolument rien contre ça. Chacun fait sa business, hein? Comme d'habitude. Si vous voulez reprendre aussi la conversation qu'on a eue avec Vincent Dessureau à leur CV la semaine dernière et qui nous explique un peu tout le phénomène, bien, c'est sur le site de blvd.fm. J'ai peut-être des petites surprises au courant de l'émission pour vous. Ceci est un indice. Alors, restez à l'écoute parce que ça pourrait être vous qui mettez la main sur... Une partie
vendeurs de billets.
Pour ceux qui connaissent, ben c'est parfait. Ce sera parmi vous que je vais pouvoir octroyer cette paire de billets pour aller voir l'artiste que je viens de vous faire entendre qui sera de passage ici au Centre Vidéotron. On en reparle un peu plus tard. En attendant, on part l'émission Café à la main ou n'importe quelle boisson chaude ou froide. Hein, avec le soleil et la chaleur aujourd'hui, c'est peut-être le retour des cafés glacés. Or bleu et pas grand-chose. À tout de suite.
Or bleu. Leur CV avec Pascal CV.
À 10h10, c'est notre invité habituel du lundi, Frédéric Bérard, avocat, auteur, chroniqueur, tout ce que vous voulez, est au bout de Zoom. Salut Fred! Oups. Voilà, tu peux resaluer les gens. J'avais pas ouvert ton micro. Salut Fred!
Oui, salut tout le monde!
Hey, t'as l'air particulièrement en forme. Est-ce que c'est parce que tu t'es chicané avec Mathieu Bock-Côté ce matin?
Non, je me chicane jamais avec Mathieu Bock-Côté. On s'insulte de manière imperméable.
c'est poli et politique peut-être plus, hein, c'est ça?
C'est pas mal politique, c'est rien de personnel, mais tout est politique en quelque sorte. Alors, au-delà des amitiés, c'est important de défendre ce pourquoi on se bat, je dirais, tiens.
Est-ce que ça se peut, ça? Parce que moi, c'est quelque chose que... Honnêtement, c'est mon grand fantasme professionnel, là, des genres de débats d'idées comme ça, où les gens se respectent foncièrement, où les gens sont contents d'échanger, même s'ils n'ont vraiment pas la même façon de voir les choses, puis même qu'ils ont cette ouverture de se pencher sur la position ou l'opinion d'une autre personne qui n'est clairement pas notre position ou notre opinion dans ce cas-ci. Et que ça se passe bien, même si le ton est un peu acrimonieux, même si le ton est un peu plus fort des fois, est-ce que ça se passe vraiment comme ça au sein de chroniqueurs dans l'image québécoise publique, disons-le de même?
Bien, il y a beaucoup de chroniqueurs qui évitent la chicane, hein? Ils sont très, très feutrés, prennent pas trop position, c'est très consensuel, convenu. Et, tu peux pas vraiment te chicaner avec la tarte aux pommes, là, rendu là, ça va. Pour d'autres chroniqueurs avec qui il y a vraiment un fossé idéologique important. Là, oui, ça peut se faire avec respect, puis souvent, tu sais, moi, je l'ai fait, j'avais un show à l'époque au métro, j'avais invité, la majorité des gens que j'avais invités, c'est des gens avec lesquels je ne partageais pas les mêmes opinions. Mm-hmm. Par contre, il y a une limite, c'est ça qui est dommage, c'est quand il y a des gens que tu considères vraiment dangereux, bien là, malheureusement, il y a une cassure, parce que, on ne peut pas faire semblant non plus, à moins d'être parfaitement hypocrite. Puis moi, je suis pas très bon dans l'hypocrisie, disons ça comme ça. Donc, voilà.
Mais la limite, est-ce qu'elle est dans la démagogie ou la fermeture, l'affirmation complète sans ouverture à ce que les autres peuvent dire de différents nous? Elle est où, cette limite-là, pour toi, du moins?
Pour moi, c'est bien personnel, oui. Mais c'est quelqu'un qui est d'extrême droite, comme Mathieu Bock-Côté, parce qu'il va falloir arrêter de se cacher puis le dire. Si vous faites, par exemple, Mathieu Bock-Côté, extrême droite, là, il va vous sortir 874 articles en France. En France, on le sait qu'il est d'extrême droite. Il travaille pour CNews, c'est la chaîne de Bolloré. C'est un petit facho. Puis tout le monde le considère comme tel là-bas. Puis ça finit là. Puis même, c'est rendu qu'il s'assume. Ici, il n'y a pas le même discours, donc fais attention. Pour moi, quelqu'un qui est d'extrême droite, malheureuse, qui prône, par exemple, la rémigration d'immigrants ici, c'est-à-dire vous retournez chez vous, ben moi, je ne suis pas capable de défendre ça, puis je ne suis pas capable d'être chum avec un gars comme ça. Ceci dit, par contre, j'ai fait des podcasts de gens très à droite, d'un point de vue fiscal, d'un point de vue économique, ce que je ne suis pas. Mm-hmm. On s'est super bien entendu, puis ça, je l'ai fait, puis il n'y a pas plus tard qu'il y a, je ne sais pas, une semaine ou deux. Je pense qu'on a encore besoin de ce dialogue-là, mais pour certaines affaires, je pense que malheureusement, ça devient possible. Comme disait un grand auteur français, on ne discute pas de recettes de cuisine avec un anthropophage. Oh, c'est-à-dire quelqu'un qui mange des humains, pour ceux qui ne savent pas.
Mon Dieu! Non, effectivement. Sinon, on les laisse dans leur petit regroupement, puis on attend que la police vienne. Ça, c'est une autre histoire. Frédéric, plein de petits sujets à jaser en fait aujourd'hui. Je vais commencer avec celui du jour. Hein. C'est presque une éclipse totale dans l'actualité aussi, cette journée spectaculaire, couverture spéciale pour ce moment historique. Mais on en jasait depuis quelques semaines, puis moi, j'avais un peu lever le drapeau en disant « Coudon, est-ce que les centres scolaires ou les écoles souhaitent pas embarquer de manière pédagogique dans l'événement parce qu'ils ont peur de recours contre eux? Est-ce une question d'assurance? Est-ce une question de peut-être se faire ramener justement dans le judiciaire parce que quelqu'un s'est blessé ou autre? Parce que pour moi, il n'y avait pas de raison de ne pas en faire un enjeu pédagogique, de ne pas en faire une journée importante pour la culture ou l'apprentissage scientifique des jeunes. Est-ce qu'il peut en avoir, justement, des recours contre des centres scolaires s'il y a des fautes pendant cette éclipse-là?
Ben oui, hein? Il y a aucune personne morale de droit public, par exemple un centre scolaire ou, par exemple, je ne sais pas moi, une municipalité, un hôpital ou autre. Quand vous commettez une faute en droit civil québécois, s'il y a un dommage, puis un lien causal entre les deux, vous pouvez être poursuivi au civil. Maintenant, quel type de faute pourrait y avoir ici?
Ouais.
Par exemple, la prof dit « Ah, mettez pas vos lunettes, ça c'est des niaiseries, regardez Donald Trump, il a fait la même chose, puis il est pas mort. » Puis là, il y a 30 enfants aveugles après 10 minutes. Là je pense que oui, il pourrait y avoir un recours. Par contre, s'il y a, je sais pas moi, un enfant qui décide d'enlever ses lunettes pour impressionner ses amis ou je ne sais trop, puis arrive une catastrophe, bien là, évidemment, on n'est pas capable de démontrer la faute de la prof dans ce cas-là, évidemment, à moins là, qu'elle ait vraiment raté là, son obligation de surveillance. Mm. Mais dans le cas que je présente, je pense qu'il n'y aurait pas de faute à ce moment-là. Donc, par définition, on ne pourrait pas poursuivre. Et moi, ce qu'on m'a dit, Pascal, parce que je suis d'accord avec toi, ça aurait pu être c'est une activité pédagogique, oui, pour certaines écoles, c'est malheureux pour les autres, mais on m'a dit qu'il y a de moins en moins de sorties scolaires, je ne sais pas si c'est vrai ou c'est n'importe quoi, basé notamment sur le fait que c'est dangereux, les trucs de ski, par exemple, des trucs du genre. Alors, je ne sais pas si on m'a raconté un peu n'importe quoi, mais si tel était le cas, ce serait dommage parce qu'il me semble qu'on a appris beaucoup dans notre temps, je suis plus vieux que toi, évidemment, en tout cas, dans mon temps, avec ce type d'activité.
Mais voyons donc, là, toi, tu me dis ça en ayant entendu des choses, des rumeurs, des palabres, là, OK?
Ça vaut absolument rien, scientifiquement parlant. Peut-être que tes auditeurs, auditrices pourront confirmer, à savoir...
Oui, les parents d'enfants, là, oui.
Oui, il y avait plus d'activités à l'époque qu'il y en a aujourd'hui. Et la raison que moi, on m'a soulevé, c'est notamment du fait que, des trucs de sécurité, c'est du trouble, on a toujours peur de se faire poursuivre et autres. Je le répète, je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai entendu ça à, je ne sais pas, une ou deux reprises la semaine passée.
Ouais, je suis quand même surprise. Avec la pandémie, je comprends, là, mettons que ça ait diminué, mais le nombre d'activités qui étaient organisées, même au parascolaire, c'est-à-dire après les cours ou entre les cours, ont tellement forgé la jeunesse, ont forgé justement le sentiment d'appartenance dans des gangs d'amis, ont pratiqué le social. Moi, ma famille ne m'a jamais initiée à tout ce qui est sport de glisse, là. Puis c'est par ces activités-là que je me suis intéressée à faire du ski à un moment donné dans ma vie. Mais justement, parce que ta famille t'apporte certaines choses, tes amis aussi, mais tout ce qui est extérieur à tes cercles, parce que tu ne veux pas être dans une chambre d'écho au-delà de paroles et de discours, mais aussi d'activités, l'école, normalement, avait quand même une bonne base importante.
Oui, c'est donner la chance aussi à certains enfants de faire des trucs qu'ils ne feraient pas, c'est un peu ce que tu viens de dire,
ouais,
qu'ils ne feraient pas pour X, Y raisons tout à fait valables. Donc, on égalise un peu les chances, puis on leur fait découvrir des trucs, des activités peut-être impossibles autrement.
Mais là, les commentaires commencent à entrer. On dit, oui, les compagnies d'assurance ont beaucoup coupé justement pour ces sorties-là. Ah. Après ça, moi, on m'a dit que le transport pour les sorties avait augmenté énormément et peut-être que ça rendait aussi plusieurs sorties moins intéressantes vu le coût. C'est intéressant, ça. Peut-être aussi pénurie là, pour les chauffeurs justement d'autobus extérieurs au parcours habituel là, qui sont calculés. Un de mes amis a une compagnie d'aventure. Il s'est fait barrer ses sorties en kayak, même en eau tranquille pour les jeunes. Bien, voyons donc, qu'est-ce qu'on vient de toucher là? Quelqu'un d'autre qui dit « Allô, Pascal, mon fils n'a eu aucune activité scolaire cette année. Il est en secondaire 2. Le fils de ma chum, qui a 8 ans, a fait 2 ou 3 sorties scolaires, qui est peut-être plus au primaire. Moi, mes enfants ont encore des sorties scolaires. Ils ont été même initiés au ski, à la planche à neige, à la piscine, en éducation physique. » Bon, ça doit dépendre des endroits, mais continuez de commenter là-dessus. Peut-être qu'il y a quelque chose à aller explorer là. Merci, Frédéric, mais...
C'est pas partir un débat de société, mais effectivement, là, il y a l'air, c'est probablement au choix des centres scolaires, de toute évidence. Mais c'est quand on parle de compagnie d'assurance, ça rejoint pas mal ce que j'ai entendu.
Ah, mais voilà. Puis peut-être avec l'éclipse aussi, c'était à revoir. Mais tu sais, si on s'inquiète... si on n'est pas assurable, si on a peur d'une poursuite, ça vient aussi peut-être de l'attitude des parents. Je ne veux pas pointer du doigt personne, mais si quelqu'un voit une poursuite parce que son enfant s'est blessé, moi, deux de mes amis, à chaque fois qu'ils ont sorti, je ne me rappelle pas comment ça s'appelle, mais genre le cheval, j'ai pas vu ça depuis longtemps en éducation physique, là, mais c'était un genre de truc de gymnastique qui s'empilait, des grosses boîtes. Là. Puis les deux fois où on a sorti cet appareil-là en éducation physique, j'ai une amie qui s'est cassée le bras puis une amie qui s'est cassée le nez. Fait qu'il y avait, mais il n'y a jamais eu de poursuite envers l'école ou l'enseignante en éducation physique. Mais à un moment donné, je pense que le cheval est parti. Fait que peut-être qu'il y avait des statistiques là-dessus, mais on était moins justement à cheval sur les poursuites peut-être dans le temps.
Oui, c'était pas mal. J'aime pas ça parler comme ça parce que ça fait un peu mon oncle, mais je pense que...
Vas-y, mon bonhomme.
Oui, je parle comme un monon, justement, mais je pense que la société s'est fragilisée là, depuis les... Puis c'est correct de vouloir être plus sécuritaire que moins, évidemment, mais arrive un moment donné où ça commence à faire beaucoup. Tu sais, dans les exemples que tu donnais, moi, une sortie de ski, il y a un de mes amis qui s'était fracturé le crâne. Là, tu sais, c'était
gros. Rien, là.
Ouais. Non, mais il aurait pu mourir. Puis je me souviens plus comment ça s'est réglé, si ses parents ont poursuivi la commission scolaire, comme vous appelez à l'époque, ou pas. Mais dans tous les cas, ils n'ont pas eu de dédommagement parce qu'il faut que tu sois capable, comme je l'expliquais tout à l'heure, de démontrer une faute. T'sais, si on va faire de la glisse, on ne peut pas s'attendre à ce que les profs tiennent chacun un enfant par la main, là, évidemment. Ça vient avec une espèce d'acceptation du risque là, par la force des choses.
Puis on signait des décharges, là, je me souviens. Là, admettons qu'on allait même au village vacances Valcartier. Tu n'es pas à une trip de chavirer puis de fracturer quelque chose dans la tornade, là. Mais on signait des décharges, puis nos parents, ils comprenaient que si on voulait s'amuser dans la vie, il y avait des risques à tout aussi.
Ça fait partie de la vie un petit peu, là, l'acceptation du risque, là.
Oui, bien, je comprends. Puis il y a des parents qui écrivent « Pascal, nos jeunes n'ont plus le droit de jouer au roi de la montagne, c'est trop dangereux. » Moi, je dirais que effectivement, quand j'étais jeune, le roi de la montagne, ça brassait pas mal, là. Oui. C'était pas une petite tuque en pointe, là, qui nous préférait aller contre une chute sur la tête. Puis la montagne était pas mal haute dans le temps, justement. La souffleuse,
bien, mais ça, bon. C'est dans le temps qu'il y avait de la neige et de la glace. Moi, je viens de Mont-Laurier.
Oui.
Le roi de la montagne, c'est lui qui débarquait. Je crois moi qui débarquait sur un moyen temps.
Non, c'est ça. Puis il fallait être courageux. En tout cas, ça te forgeait le courage. Mais là, c'est ça. On parlait plutôt de l'éclipse un peu ensemble, justement, pour ces recours qu'il pourrait avoir là, si jamais un enfant se blessait durant l'éclipse solaire. Mais tu fais une grande différence entre une enseignante ou un enseignant qui dit « Mettez pas les lunettes, c'est des niaiseries, ça », et un enfant qui enlève ses lunettes dans le dos de l'enseignant de l'enseignante, puis qui pourrait se blesser à la rétine, il y aurait peut-être un petit peu moins de poursuites à y avoir. Fait que peut-être qu'on s'est affolé du côté des commissions scolaires, des centres scolaires.
Oui, puis ça aurait pu être une façon aussi d'éduquer les enfants à l'astronomie, puis leur expliquer les dangers de regarder une éclipse sans lunettes. T'sais, je sais pas, moi, je trouve qu'il y avait une belle occasion de renverser certains discours complotistes, là, disons-le, puis on le voit, là, c'est encore parti aux États-Unis, là, l'éclipse est un complot. T'sais, on n'en finit jamais. En d'autres termes, de revaloriser la science, l'importance de celle-ci dans nos sociétés, un peu comme mon discours qui existait assez facilement à l'époque, qui n'était pas trop, compromis, contrairement à aujourd'hui.
Mm-hmm, absolument. Puis il y a des parents qui nous disent aussi, qui nous nomment certaines écoles où c'en est une activité pédagogique aujourd'hui. On les salue. Justement, on va parler à Carl Beaulieu de l'école secondaire de la Courvilloise un peu plus tard, qui amène 90 de ses élèves du côté de Saint-Georges. Lui, il a décidé qu'il prenait ça en main. Et peut-être qu'il a fait signer des décharges, je ne sais pas, mais il y en a des enseignants, justement, qui le voient encore comme un exercice important puis intéressant pour les élèves. Frédéric, je parlais avec toi de Mélanie Joly. À Tout le monde en parle hier, la ministre des Affaires étrangères qui s'est prononcée sur quelque chose d'important. Pourquoi on en parle aujourd'hui? C'est parce que quand on décide de prendre une position, d'affirmer publiquement quelque chose en tant que ministre, ben, on représente le pays aussi pour lequel on travaille, dans ce cas-ci, le Canada. Et elle est revenue sur la mort du travailleur humanitaire ici dans la région, la grande région de Québec, disons-le, le Beauceron qui est décédé, Jacob Flinkinger, j'espère que je le dis bien, qui est de Saint-Georges, justement, et qui est un des 7 travailleurs humanitaires qui, malheureusement, périt dans le bombardement israélien. Elle a souligné le fait qu'il était un héros, qu'il a aidé des Palestiniens à se nourrir. Tout le monde est fier de lui, effectivement. Puis, ils ont annoncé qu'ils vont soutenir la famille. Ils vont demander à ce que le gouvernement israélien soit imputable là-dedans. Mais elle a aussi pris la parole en disant que c'est sûr que présentement, il y a peut-être une petite... Elle n'a pas mis la pédale sur le gaz complètement, mais elle a quand même affirmé que, je la cite, « C'est sûr que présentement, le gouvernement Netanyahou est problématique. » Une prise de parole comme ça, là, on se dit, tout le monde en parle. Est-ce que vraiment, là, Israël va écouter Mélanie Joly, à tout le monde en parle. Normalement, ce genre de choses-là se rend quand même aux oreilles, hein, à l'international, de ceux qui sont visés. Et là, elle est ministre des Affaires étrangères, alors ça peut avoir un pan plus important. Elle a répété qu'il faut un cessez-le-feu pour avoir éventuellement un dialogue, mais il faut également que les otages soient libérés. Donc, il y a une prise de position quand même claire de ce côté-ci. À quoi ça rime, en fait, finalement, Frédéric, à tes yeux?
Ben écoute, je suis certain que Netanyahou n'a pas passé son dimanche soir ou dimanche dans la nuit, dans son cas, à regarder Guillaume Lepage, mais reste que c'est officiel à 1000% qu'on lui a expliqué et traduit les propos de Mélanie Joly. Hein. Ces gouvernements-là ont des antennes absolument partout parce qu'il y a un gros enjeu géopolitique, là, évidemment, là, c'est pour ça qu'on en parle d'ailleurs. Mm-hmm. Et oui, un changement de ton de la part du gouvernement Trudeau.
On prend une position plus ferme cette fois-ci, oui.
Et sais-tu quoi? Si on regarde nos montres, là, on est rendu le 8 avril, là, ça commence à être le temps. Là, parce qu'en janvier, la Cour internationale de justice a dit que c'est un génocide qui est en train de se produire à Gaza. Un génocide. Et si je sais compter, ça fait 3 mois qu'on ne fait à peu près rien. C'est la première gifle, parce qu'on peut appeler ça une gifle, parce que pour Netanyahou, de se faire dire par le Canada que tu es problématique, c'est une claque en pleine face, soyons honnêtes, mais c'est la première là, depuis 3 mois, là, ce qui n'est pas tout à fait normal. Et pourquoi le Canada agit ainsi? Parce que Biden, si tu as vu, là, je pense que c'est la semaine dernière ou il y a 10 jours, a dit à peu près la même affaire, en d'autres termes, là, gouvernement d'Israël, écoute-moi bien, le soutien, des États-Unis n'est pas éternel. Il va falloir calmer vos ardeurs. Donc, évidemment que le Canada est un peu le chien de poche, enfin, un peu, et très clairement le chien de poche américain là-dedans. Moi, ça m'embête un peu. Moi, j'aimais beaucoup quand le Canada, dans le temps de Trudeau père, avait une indépendance par rapport aux États-Unis, par rapport à la Chine, par rapport à Cuba et par rapport à l'Union soviétique et autres. Mais bon, puis pour le reste, moi, ça revient à ce qu'on a dit souvent ensemble, Pascal. On peut critiquer le gouvernement d'Israël sans être antisémite, évidemment, puis sans critiquer le peuple juif d'une seule seconde. Et la meilleure preuve de ce que je te dis là, c'est que dans les rues de Tel Aviv, qui est pour moi une des plus belles villes que j'ai vues à travers le monde par ailleurs, Tel Aviv est une des villes les plus progressistes, il y a des manifs de dizaines de milliers, de centaines de milliers de juifs contre le gouvernement Netanyahou pour forcer un cessez-le-feu. Parce qu'on peut chialer sur le gouvernement d'Israël tant qu'on veut, puis on a raison de le faire dans ce cas-ci, mais Israël est encore une démocratie. Et dans ce cas-ci, on en appelle à des élections anticipées. Netanyahou n'en tiendra pas parce qu'il sait qu'il y a des risques de se faire botter le derrière. Puis sans toi puis moi, c'est quand même une bonne nouvelle de savoir que tu as une population qui dit là, ce qu'on est en train de faire, là, ce sont des atrocités. C'est un génocide, puis il faut que ça arrête.
Oui, puis dès le début, dès la première attaque, en fait, là, il y a des Israéliens qui s'étaient révoltés de l'attaque en question. Des Palestiniens, la même chose. Il y a des gens, même s'ils sont divisés par le territoire, par tout ce qu'on connaît en termes de religion, par le fait que, ben je veux pas, il y a un côté très émotif à tout ça. Là, quand on s'attaque entre nous, ben tu peux être en désaccord avec les choix gouvernementaux qui sont pris ou les choix offensifs qui sont pris, mais ça reste que si tu vois ta famille décimée, des amis mourir ou autre, il y a le petit caractère émotif de dire, ben voyons donc ces écœurants-là. Mais ça n'a pas pris le dessus sur beaucoup de ces citoyens-là, autant en Palestine que du côté d'Israël. C'est ce qui est fascinant dans le conflit, mais voilà que le Canada, en fait, s'est positionné de façon un petit peu plus claire, effectivement. Bien qu'on comprenne qu'il y a une différence entre le Hamas, qui est une organisation terroriste, et des représailles, finalement, pour avoir un certain contrôle, mais peut-être que du côté de Netanyahou, là, ça devient problématique parce que ça devient trop agressif, puis aussi, il y a des sanctions importantes, puis des gens, bien, en travailleurs humanitaires qui en meurent, en fait, sur le terrain, là. C'est que ça va très, très loin, hein, Frédéric?
Non, mais ça a plus de bon sens, là, écoutez. Ils rasent des hôpitaux, puis ils s'excusent pratiquement pas. Puis qu'on se comprenne bien, là, le 7 octobre, c'est épouvantable, là, ce qui s'est produit. Là. Puis des prises d'otages, c'est inadmissible. Mais reste que quand tu répliques, il faut toujours que tu répliques avec une certaine proportionnalité. Mm-hmm. Et le Hamas, on ne peut pas... Puis tant mieux que si le Hamas a été éradiqué éventuellement, mais les Palestiniens pourront jamais... Comment je te dirais, pourront jamais lutter à force égale contre un gouvernement comme celui-là, puis une force de frappe militaire comme celle-là. Écoute, ils ont des drones, ils ont tout. Et là, la question, c'est même pas de savoir de quel bord on est. Moi, je suis du bord, oui. Je suis d'autre bord. Zéro. Zéro puis une barre. Puis on ne va pas me forcer à choisir entre un et l'autre. On ne va pas me forcer à choisir entre la masse et Netanyahou. Moi, je choisis le cessez-le-feu, puis je choisis les vies humaines. Puis là, actuellement, ce qui arrive, c'est que les Palestiniens se font massacrer. On leur refuse parce qu'on est en train de les affamer. Là. D'ailleurs, là, ce brave homme là, qui a été assassiné là-bas, parce que rendu là, c'est un assassinat, ben, lui, ce qu'il faisait, c'est essayer de nourrir, faire passer de la bouffe du côté de Gaza. La réalité, c'est parce que ce qu'Israël est en train de faire, justement, c'est justement des affamés. Donc, tout ça pour dire quoi? Ce sont des crimes contre l'humanité. C'est connu, c'est su. Il y a une décision, deux décisions même en fait, de la Cour internationale. C'est-à-dire, si le droit international sert à quelque chose, il faut que ce soit au moins à ça, c'est-à-dire évaluer de la preuve puis dire un état de fait. Alors là, les États-Unis commencent à se refroidir un peu, le Canada suit au même niveau, mais je pense que franchement, il va falloir passer à l'autre étape, qui est celle de forcer le cessez-le-feu puis dire à Netanyahou, là, si tu continues, là, on te lâche. Puis entre toi et moi puis la boîte à bois, si les États-Unis lâchent Netanyahou, ben ça va devenir pas mal compliqué pour lui. En d'autres termes, ça va prendre l'autre étape qui sous peu idéalement.
Ah, puis ça se jase très, très, très fortement là, entre pays à l'international, même l'Italie. Là. Même chose du côté du ministre des Affaires étrangères en Italie. On a demandé un cessez-le-feu immédiat à Gaza. Là. On a été assez strict en ce qui concerne aussi le cessez-le-feu. Tout le monde est en train de se parler. Puis on se dit là, ça commence à déraper, mais ça fait longtemps que ça dérape. Puis effectivement, on n'a peut-être pas assez parlé quand c'était le temps. En même temps, bon, il y a beaucoup d'enjeux dans tout ça. C'est pas toujours facile, c'est extrêmement crève-cœur quand on sait qu'il y a des pertes humaines puis de la grande détresse reliée à tout ça, mais effectivement que des fois les relations internationales sont encore plus, demandantes sur plusieurs aspects. Rapidement, parce que je vois le temps qui passe, Frédéric, mais je veux quand même qu'on glisse un mot sur les États-Unis et Donald Trump qui dit vouloir laisser les États américains légiférer sur l'avortement s'il revient au pouvoir.
Bien, on sait que c'est Trump qui a amené le renversement de Roe contre Wade, hein, la décision très, très fameuse de la Cour suprême qui permettait le droit à l'avortement. Il s'est assuré de nommer trois juges qui ont fini par venir à renverser cette décision-là. On voit l'espèce de catastrophe. Hein. Il y a pratiquement une vingtaine d'États qui interdisent maintenant l'avortement à divers degrés, 14 totalement, d'autres à divers degrés. Et là, par contre, ce qui est intéressant, c'est que Trump a commencé à faire des calculs. Il voit que dans certains États, s'il va trop fort contre l'avortement, il perdra. Alors donc, c'est ça l'espèce de sortie qu'il vient tout juste de faire ce matin en disant « oui, 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 il fallait renverser Roe contre Wade, oui, 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 les États ont à décider ». Mais contrairement à ce que certains pensaient et souhaitaient, notamment la droite religieuse, il n'est pas allé jusqu'à dire « si je suis élu, je vais interdire l'avortement à grandeur du pays » parce qu'il sait que ça lui coûterait trop cher. Politiquement parlant. Alors ça, c'est la bonne nouvelle du jour. Hein, Pascal, il y a souvent de très, très, très mauvaises nouvelles, mais celle-ci, c'en est une bonne, c'est-à-dire qu'il y a encore des gens aux États-Unis qui se réveillent puis qui disent « Ah, ben les droits fondamentaux sont en train de sacrer le camp. On aimerait ça peut-être en faire un enjeu électoral. » Alors pour moi, c'est un petit baume sur mon petit cœur.
Bon, c'est très bien dit. Puis au moins, ça nous tourne vers, encore une fois, l'actualité politique du côté des États-Unis pour plusieurs raisons, puis ça nous permet d'être au courant de ce qui est discuté, ce qui est très important à ne pas oublier. Malgré l'éclipse solaire aujourd'hui, Frédéric Bérard a un bonheur de t'avoir eu encore en ce lundi en chronique dans l'RCV. Je te souhaite une excellente journée, c'est tout ce que tu mérites.
Ah ben t'es bien gentil, je prends ça dans mon petit cœur ça aussi, ça fait deux bonnes nouvelles aujourd'hui.
Tu l'enverras aussi à Mathieu Boccoté, là. Je sais que vous êtes aux deux extrêmes, là, mais...
Sache par toi-même.
Salut Frédéric.
Salut.
Et on va faire une courte pause dans l'heure CV, vous êtes bien à Boulevard 102.1, je vous l'ai dit, je vais vous gâter d'une manière ou d'une autre avec des billets pour un spectacle que vous attendez. Pour plusieurs, vous avez demandé des billets encore, on en veut. On vous a entendu, j'en ai une paire de billets pour vous, mais je dis pas pour qui, je vous ai donné l'indice un peu plus tôt, en début d'émission. Alors, c'est pour les vrais, les fervents de leur CV. Et au retour, on parle à Carl Beaulieu, enseignant au secondaire dans l'école La Courvilloise. Il va amener 90 de ses élèves à Saint-Georges-de-Beauce aujourd'hui pour faire de la pédagogie avec l'éclipse solaire. Je pense que c'est important de souligner les gens qu'on ne connaît pas et qui ont un impact très positif sur notre société et dans notre collectivité. Puis en plus, c'est ici que ça se passe.
La formation CV.
Ouais, la météo, faut que j'en parle parce qu'on est bien fiers de nos commanditaires, mais surtout aussi parce que c'est une merveilleuse journée. Mon Dieu, qu'il fait beau. 6 degrés, c'est ça qu'on a à l'extérieur, mais ça va monter jusqu'à 16. Et si vous avez fait la gaffe comme moi de vous habiller en tout ce que l'alpaga a pu nous donner comme laine, ben c'était pas la journée. Fait que vous irez vous changer parce que c'est 16 le maximum aujourd'hui. Avec le soleil en plus, ben ça va taper, mais d'une magnifique manière. Honnêtement, c'est une superbe journée où 2500 personnes sont attendues à l'Observatoire du Mont-Mégantic. Mais c'est pas tout le monde qui a la possibilité de se rendre aussi loin. Mais c'est pas tout le monde non plus qui a la possibilité d'avoir des gens autour d'eux qui veulent faire de cette journée historique une journée d'apprentissage. Puis on a tellement parlé de commissions scolaires... Oh, excusez-moi, de centres scolaires qui n'ont pas utilisé cette journée-là pour faire de la pédagogie, pour justement faire en sorte que ce soit une journée spéciale d'éducation. Mais il y en a qui ont décidé de le faire et il y en a un bout du fil. Je suis bien fière de vous le présenter. Il s'appelle Carl Beaulieu, il est enseignant à l'école secondaire de la Courvilloise. Bonjour, Carl.
Bonjour.
Là, t'es pas en cours en ce moment. Là, je suis pas en train de miner à l'éducation de tes jeunes.
Non, c'est l'heure de la pause actuellement. Là, et puis, j'ai une stagiaire qui va débuter le cours tout à l'heure que je vais aller superviser par la suite.
Excellent. La relève en éducation, on aime ça. Ça vous en prend.
Oui.
Carl, c'est une journée particulière. Puis toi, tu as décidé. Puis je te connais. Là, je sais que tu es proactif. Je vais le dire, je t'ai eu comme enseignant en monde contemporain. Il y a un peu de toi dans ce que je suis maintenant. J'aime beaucoup le dire parce que bien, les enseignants, vous avez un rapport important avec vos élèves. Quand vous êtes passionné, ça paraît. Puis je suis contente et fière de savoir que tu l'es encore au point où une journée comme aujourd'hui fait en sorte que tu décides de mobiliser deux autobus scolaires pour amener plus de 70 élèves avec toi du côté de Saint-Georges-de-Beauce à partir de midi pour jaser et vivre l'éclipse solaire. C'est ça que tu vas faire aujourd'hui.
Oui, effectivement. Là, les jeunes, il y en a plusieurs qui parlaient de ça, commençaient à jaser de ce fait-là. Puis là, avec la tourmente des grèves, d'essayer de reprendre le dessus sur la matière, etc. À un moment donné, on s'est rendu compte qu'il y aurait une différence majeure entre l'éclipse ici et l'éclipse dans le secteur de la Beauce. Alors, à partir du moment où est-ce que j'ai eu l'occasion de voir des simulations réelles, j'ai dit, non, on ne peut pas passer à côté de ça. Le problème, c'est que c'est un petit peu dernière minute, mais bon, là, je suis allé voir mon directeur, David Etienne, j'ai dit, bon, là, j'ai un plan un peu fou. Ça, c'était, je pense que c'était jeudi après-midi.
Jeudi dernier?
Oui.
OK, quand tu parles de dernière minute.
Moi, que j'y pense honnêtement, mais tu sais, on est tellement débordés de différentes tâches d'un bord puis de l'autre, qu'à un moment donné, tu y vas, tu gères par priorité. Et là, en voyant vraiment la différence, je dis non, on ne peut pas manquer ça. Puis, il nous restait du budget dans notre programme d'éducation internationale pour les sorties éducatives. Alors, on a réservé deux autobus. Bien sûr, la direction, la première chose sur laquelle ils ont mis l'accent, c'est la sécurité. C'est qu'on a plus d'accompagnateurs. On a trouvé un site où il y avait des salles de bain. On s'en va à Saint-Georges-de-Beauce, un des trois sites d'observation là, de la Fédération des astronomes du Québec. C'est ça, on a nos lunettes. Là, j'ai fait un décompte tout à l'heure. C'est ça. Alors, puis on sait même que l'autoroute risque d'être bloquée là, à l'entrée. Là, fait qu'on regarde un itinéraire de contournement pour arriver à temps. On a deux heures d'avance. Fait qu'on devrait être correct.
Quand tu dis que ça risque d'être bloqué, comment est-ce que ça c'est venu à tes oreilles là, que l'autoroute risque d'être bloquée?
Non, j'ai vu une publication qui disait qu'il y avait des travaux. Je suis allé vérifier sur le 511. Effectivement, il pouvait avoir une entrave. Elle a peut-être été changée là, parce que. C'est sûr que juste les fous ne changent pas d'idée, comme on dit. Mais il y avait une entrave à la sortie du pont en direction de la Beauce là, pour des travaux sur un pont, je crois. Alors, ça a commencé cette nuit.
Carl, tu es un des enseignants qui a décidé justement d'en faire une journée très positive, pédagogique. As-tu eu des bâtons dans les roues quand tu parles de la sécurité qui était l'élément majeur de cette sortie-là? Est-ce que tu sens qu'il y a plus d'emphase mis là-dessus vraiment par la dangerosité qui peut exister si jamais les jeunes ne portent pas leurs lunettes et autres et qui a mené à des fermetures scolaires?
Oui, on se rappelle que lors de la dernière éclipse majeure, il y a eu une centaine de personnes sur des millions qui ont visionné le tout. Là. Alors, tu sais, il y avait des risques. C'est normal de gérer les risques. Mais bon, je pense que j'ai bénéficié du fait que j'ai retardé la mise en place de l'activité. Déjà, la commission scolaire, le centre de service, excusez-moi, avait déjà mis en place des normes, il y avait des consentements signés pour pouvoir observer que si les parents n'étaient pas d'accord, ils pouvaient refuser. Mmh. Puis moi, tout ce que ça me prenait, c'est un consentement pour sortir de l'école. Alors ça, ben, moi, ça fait électroniquement maintenant, les courriels sont échangés. Et après ça, on embarque les enfants, puis les ados, puis on va voir ce qui se passe là.
Sont-tu excités? Est-ce qu'on en parle aujourd'hui beaucoup?
Moi, j'en ai pas croisé encore aujourd'hui là, parce que je suis dans la finalisation des toutes les choses, de trousse de premiers soins, etc. Mais, bref, une des choses qui m'a frappé, c'est quand je l'ai présenté dans les trois groupes, il y en a là, que les sourires ont monté, là, les yeux là, qui pétaient, le genre de choses qui stimulent un enseignant là, là-dedans. Il y a beaucoup de parents qui ont dit aussi dans leur retour qu'ils trouvaient que c'était vraiment une bonne idée d'activité. Puis honnêtement, là, je suis très déçu pour l'ensemble de mes élèves, parce que moi j'enseigne aussi dans d'autres programmes. J'aurais aimé tous les amener, mais à un moment donné, mathématiquement, les sous, le transport, l'organisation. Dans un monde idéal, on aurait peut-être pu pairer des écoles secondaires, puis qu'on aille là-bas. Mais là, c'est énormément de logistique, là. Fait que ça, c'est... Là, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, puis... Voilà.
Peut-être en terminant, parce que je sais que tu n'aimes pas avoir la lumière sur toi, Carl, mais je sais que tu as une vision de l'éducation qui est différente. Tu es père de plusieurs enfants. Tu sais, tu as un camp de jour à toi seul, là, honnêtement. Tu as été très proactif sur la procréation. Tu as monté les chiffres du Québec. Tu adores, justement, stimuler la jeunesse. Mais tu as une approche qui est particulière et qui est... parce qu'on est tous une gang d'insignifiants à cet âge-là. Parce que moi, je me réfère à qui j'étais à ce moment-là au secondaire, tu sais. Mais tu nous as toujours traités en adultes. C'est un peu l'approche que tu as aussi en ce moment pour cette journée spéciale-là?
Oui. Puis je fais beaucoup de tutorat cette année avec des jeunes en difficulté. Puis c'est la même chose aussi. Là. Ils veulent être adultes, ils veulent vivre ils veulent conduire, ils veulent vivre comme des adultes. Bien, on les traite comme des adultes. Puis quand ça et comme on dit en bon français, ils l'échappent, on jase avec eux autres et on essaie de leur faire voir. Mais l'avantage, c'est que moi, je suis pas parent à ce moment-là, je suis enseignant. Fait que l'angle, c'est moins menaçant, le jeune est plus à l'écoute. Moi, je priorise énormément dans l'enseignement. De toute façon, c'est un des gros facteurs de réussite, là, les parents et les profs. Et quand on est capable de développer une relation forte avec les jeunes, puis, tu sais, j'ai la misère avec ce que tu dis au sujet de l'insignifiance.
Je sais que ça allait te piquer, oui.
C'est parce que les jeunes sont là. C'est à nous de les développer.
Oui.
Puis pour les développer, il faut que tu les laisses s'exprimer. Puis donc, il faut que tu aies une relation avec eux autres. Il faut que tu ailles les chercher. Ma job, c'est d'aller chercher les jeunes. Des fois, je leur dis, il faut que je vous brasse la canisse un peu. Et ça amène des réactions. On s'intéresse à eux. C'est important. Puis, des années plus tard, ben on a des retours de ton type là, de jeunes qu'on a dit quelque chose à un moment donné auquel, pour nous, là, ça n'avait pas nécessairement d'importance, mais ça a fait un point de bascule. Puis ça, moi, je trouve ça extrêmement important. T'sais, on parle souvent de la signifiance de l'apprentissage, on parle souvent d'avoir des bons fondements pédagogiques, mais au départ, c'est pour aller chercher la clé pour débarrer l'entrée du cœur et de l'esprit de l'enfant. C'est moins efficient.
C'est grâce à des enseignants comme toi, comme tous ceux qui aujourd'hui vont prendre cette journée-là pour en faire une journée particulière que ça arrive. Puis, tu sais, l'insignifiance, je niaise souvent avec ça parce qu'au secondaire, on teste les limites, on est un peu niaiseux, puis en même temps, ça fait grandir. Puis quand il y a des enseignants qui nous laissent être ça, mais qui nous poussent aussi à être la meilleure version de nous-mêmes, peu importe l'âge que l'on a, ça fait des beaux cadeaux humains et adultes pour la suite des choses. Merci, Carl, de faire ça pour tes élèves. Au nom des auditeurs aussi qui te remercient puis qui trippent sur ton témoignage aujourd'hui, on vous souhaite une superbe expérience puis tu m'en redonneras des nouvelles.
Bien, je te tiens au courant. Merci, Pascal.
Parfait.
Passez une belle journée.
Merci. Toi aussi, c'est tout ce que tu mérites. J'aime ça dire ça. Carl Beaulieu, qui est enseignant au secondaire en monde contemporain à l'école secondaire La Courvilloise, qui, lui, va amener plus de 70 de ses élèves de l'autre côté des ponts, soit à Saint-Georges-de-Beauce, pour aller profiter de cette journée historique, mesdames et messieurs, où 2500 personnes sont aussi attendues dans un endroit mythique, dans un endroit où ce sera... majeur, soit à l'Observatoire du Mont Mégantic. Si vous êtes sur la route en ce moment, signalez-le 418-971-1021. Mais demandez à votre passager, en fait, de texter parce que c'est pas vraiment légal de le faire si vous conduisez. Puis vraiment, c'est une façon de parler parce que ça ne l'est pas. Puis la police, Elle est un peu partout aujourd'hui. Elle est un peu partout. Ouais. Rémi Chassé, pourquoi pas s'enfuir de l'autre côté des ponts à Saint-Georges-de-Beauce pour aller profiter de la journée. C'est un peu ça aussi. Hey, merci d'être dans l'heure CV. Restez là. Peut-être que je vous garde dans un instant. C'est déjà la fin de l'émission. Merci beaucoup d'avoir été là. Je vous lis toujours au 88-971-1021. À retenir de l'émission, est-ce qu'il y a encore des activités scolaires pour vos enfants? Je vais prendre toute information, s'il vous plaît, au 88-971-1021. Je vous garde en fin d'émission, justement. Je vous l'avais promis, c'est le cas. Y a-t-il des gens qui auraient envie d'aller voir Snoop Dogg? Une couple de collègues et moi qui se trompent? Pourquoi? Ben, je sais pas. C'est un gars qui nous a marqué, veut pas. Snoop Dogg qui sera à Québec le 6 juin au Centre Vidéotron. C'est sa tournée Cali to Canada Tour avec des invités comme Warren G, DJ Quick. DJ Quick, ça me fait tellement rire les noms de DJ. Et Green Lantern. Mais il y aura du monde qui bon, partiront en fumée sur la scène du Centre Vidéotron. Mais c'est vraiment un spectacle à ne pas manquer. Si vous avez été très présent ou moins présent, vu plein de choses dans les années 90-2000, c'est le temps d'aller acheter vos billets sur gestev.com ou encore de m'écrire au 88-971-1021 pour gagner votre paire de billets. Tout ce que je veux savoir, c'est qui vous allez amener avec vous. OK? 88-971-1021. Bonne chance à tous. Pour les autres, faites comme nous, achetez les billets sur gestev.com. Puis sinon, je vous rappelle que toute la journée, encore une fois, il y aura des indices. Quand vous allez entendre une chanson de Blink-182, restez à l'affût de l'heure qu'il est, parce que c'est le Rock'n'Ball qui est en cours à Boulevard 102.1. On a lancé ce concours-là, on vous envoie en Californie. Donc, c'est ça. Snoop Dogg vient à Québec, nous autres, on vous envoie en Californie. On vous envoie voir, justement, la tournée réunion de Blink-182 au Chase Center. Et on vous envoie voir de la balle. C'est deux billets pour les Blue Jays contre les Giants au Oracle Park à San Francisco en juin prochain. Parlez-moi d'un beau concours trippant. Et c'est grâce à Variété 2020 que vous avez le vol, l'hébergement, l'argent de poche et les activités comme ça gratuitement dans ce concours exceptionnel, un trip de rêve. Variété 2020, moi, je vous le dis, si c'est des partenaires qui ont envie de vous gâter comme ça puis de triper avec Boulevard 102.1, ça mérite un coup d'œil, autant sur leur page Facebook qu'en personne, parce qu'il y a de la nouvelle marchandise chaque jour à des prix incroyables. Fait qu'en plus de vous offrir ce trip-là, vous allez découvrir un établissement que vous allez fréquenter à partir de maintenant pour toutes ces offres incroyables sur les vêtements, les jouets, la literie, l'électronique. Ils vous dénichent les meilleurs prix parce que c'est des surplus d'inventaire. Donc, merci à Variété 2020. Nous autres, on souligne ces collaborateurs exceptionnels-là. Merci aussi d'avoir été dans leur CV et bonne chance pour tous les concours qu'on vous offre dans votre radio, parce que comme dirait Denis Gravel, ici, c'est chez vous, c'est tout.